Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
L'art d'ignorer les pauvres est un recueil paru en 2011 dans la collection Les liens qui libèrent, en collaboration avec Le Monde diplomatique. L'ouvrage, rassemblant trois textes d'origine et d'auteurs différents, s'ouvre sous la plume de l'économiste John Kenneth Galbraith sur un article qui a donné à ce recueil son titre, quelque peu sarcastique, « L'art d'ignorer les pauvres ». Extrait. Chaque catastrophe naturelle révèle, s'il en était besoin, l'extrême fragilité des classes populaires, dont la vie comme la survie se trouve dévaluée. Pis, la compassion pour les pauvres, affichée au coup par coup, masque mal que de tout temps, des penseurs ont cherché à justifier la misère en culpabilisant au besoin ses victimes et à rejeter toute politique sérieuse pour l'éradiquer. Je voudrais livrer ici quelques réflexions sur l'un des plus anciens exercices humains, le processus par lequel, au fil des années, et même au cours des siècles, nous avons entrepris de nous épargner toute mauvaise conscience au sujet des pauvres. Pauvres et riches ont toujours vécu côte à côte, toujours inconfortablement, parfois de manière périlleuse. Plutarque affirmait que le déséquilibre entre les riches et les pauvres est la plus ancienne et la plus fatale des maladies des républiques. Les problèmes résultant de cette coexistence, et particulièrement celui de la justification de la bonne fortune de quelques-uns face à la mauvaise fortune des autres, sont une préoccupation intellectuelle de tous les temps. Ils continuent de l'être aujourd'hui. Il faut commencer par la solution proposée par la Bible. Les pauvres souffrent en ce bas monde, mais ils seront magnifiquement récompensés dans l'autre. Cette solution admirable permet aux riches de jouir de leur richesse tout en enviant les pauvres pour leur félicité dans l'au-delà. Bien plus tard, dans les 20 ou 30 années qui suivirent la publication en 1776 des « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations » à l'aube de la révolution industrielle en Angleterre, le problème et sa solution commencèrent à prendre leur forme moderne. Un quasi-contemporain d'Adam Smith, Jeremy Bentham, 1748-1832, inventa une formule qui eut une influence extraordinaire sur la pensée britannique et aussi, dans une certaine mesure, sur la pensée américaine pendant 50 ans, l'utilitarisme. Par principe d'utilité, écrivit Bentham en 1789, il faut entendre le principe qui approuve ou désapprouve quelque action que ce soit en fonction de sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur de la partie dont l'intérêt est en jeu. La vertu est, et même doit être, autocentrée. Le problème social de la coexistence d'un petit nombre de riches et d'un grand nombre de pauvres était réglé dès lors que l'on parvenait au plus grand bien pour le plus grand nombre. La société faisait de son mieux pour le maximum de personnes et il fallait accepter que le résultat soit malheureusement très déplaisant à l'encontre de ceux très nombreux pour lesquels le bonheur n'était pas au rendez-vous. En 1830, une nouvelle formule toujours d'actualité fut proposée pour évacuer la pauvreté de la conscience publique. Elle est associée au nom du financier David Ricardo, 1772-1823, et du pasteur anglican Thomas Robert Malthus, 1766-1834. Si les pauvres sont pauvres, c'est leur faute. Cela tient à leur fécondité excessive. Leur intempérance sexuelle les a conduits à proliférer jusqu'aux limites des ressources disponibles. Pour le malthusianisme, la pauvreté ayant sa cause dans le lit, les riches ne sont pas responsables de sa création ou de sa diminution. Au milieu du XIXe siècle, une autre forme de déni connut un grand succès, particulièrement aux États-Unis. Le darwinisme social, associé au nom de Herbert Spencer, 1820-1903. Pour ce dernier, dans la vie économique comme dans le développement biologique, la règle suprême était la survie des plus aptes, expression que l'on prête à tort à Charles Darwin. L'élimination des pauvres constitue le moyen utilisé par la nature pour améliorer la race. la qualité de la famille humaine soit renforcée de la disparition des faibles et des déshérités. L'un des plus notables porte-parole américains du darwinisme social fut John D. Rockefeller, le premier de la dynastie qui déclara dans un discours célèbre « La variété de rose, American Beauty, ne peut être produite dans la splendeur et le parfum qui enthousiasme celui qui la contemple qu'en sacrifiant les premiers bourgeons poussant autour d'elle. » Il en va de même dans la vie économique. Ce n'est là que l'application d'une loi de la nature et d'une loi de Dieu. Au cours du XXe siècle, le darwinisme social en vint à être considéré comme un peu trop cruel. Sa popularité déclina et, quand on y fit référence, ce fut généralement pour le condamner. Lui succéda un déni plus amorphe de la pauvreté associé aux présidents Calvin Coolidge et Herbert Hoover. Pour eux, toute aide publique aux pauvres faisait obstacle au fonctionnement efficace de l'économie. Elle semblait même incompatible avec un projet économique qui avait si bien servi la plupart des gens. Cette idée, qu'il est économiquement dommageable d'aider les pauvres, reste présente. Et au cours de ces dernières années, la recherche de la meilleure manière d'évacuer toute mauvaise conscience au sujet des pauvres est devenue une préoccupation philosophique, littéraire et rhétorique de première importance. C'est aussi une entreprise non dépourvue d'intérêt économique. Des quatre ou peut-être cinq méthodes en cours pour garder bonne conscience en la matière, la première est le produit d'un fait incontestable. La plupart des initiatives à prendre en faveur des pauvres relèvent, d'une manière ou d'une autre, de l'État. On fait alors valoir qu'il est par nature incompétent, sauf quand il s'agit de gérer le Pentagone et de passer des marchés publics avec des firmes d'armement. Puisqu'il est à la fois incompétent et inefficace, on ne saurait lui demander de se porter au secours des pauvres. Il ne ferait que mettre davantage de pagaille et aggraverait encore leur sort.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.